Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport, en direct du Mondial de l'Auto.
Ah, bah, ça va marcher beaucoup moins bien, forcément.
Jean-Christophe Drouet.
11h08 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Cessieux, Fred Weiss, Marc Madio. Nous sommes ensemble évidemment jusqu'à midi en direct du Mondial de l'Automobile. Nous sommes au pavillon 6 au standard, au stand RMC Découverte. Donc si vous voulez venir nous voir, n'hésitez pas évidemment. Nous sommes là pour vous accueillir et si vous avez envie de débattre avec nos GG, évidemment, c'est avec grand plaisir. Il y a beaucoup de monde déjà ici pour admirer nos stars à nous, Marc, Fred, Christophe. Vous faites un tabac aujourd'hui au pavillon 6. Bravo à vous. Sachez que Jérôme Pinault va venir nous rejoindre. On va l'accueillir tout de suite. Salut Jérôme.
Salut les GG.
Salut Jérôme.
Salut Jérôme.
Jérôme, tu aimes bien le Mondial de l'Auto? Est-ce que tu es toi qui vends des vélos électriques quand même? Ça va te parler des moteurs?
Je vends des vélos électriques. J'aime beaucoup les voitures électriques aussi actuellement, oui. J'étais étonné que Fred était très passionné par la bagnole, mais j'ai compris pourquoi. Le salon de l'auto, sa présence me paraît plus claire maintenant.
Ouais, vas-y, développe nous en dire un peu plus. Ouais.
Non, mais on sait que les stands sont quand même bien animés et je crois que Fred apprécie l'animation qui se passe sur les stands. Plus que la voiture en elle-même. Les belles carrosseries. Il aime les belles carrosseries. Il a toujours aimé ça.
Balancé, en tout cas. Notre ami Jérôme Pinault, merci d'être avec nous dans les grandes gueules du sport. Alors, 11h45, vous le savez, vous en avez pris l'habitude. C'est votre moment, les auditeurs. Vous n'êtes pas d'accord avec les GG sur un thème du jour. On a parlé Kylian Mbappé, d'Antoine Dupont, de Félix Lebrun, de Léon Marchand. Bref, que des stars. N'hésitez pas à venir réagir. Vous composez le 32-16 et vous venez intervenir dans cette émission. 11h30, le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir débattre. À l'occasion du Mondial de l'Auto, si vous trouvez le débat caché maintenant, je vous offre la R5 électrique. Oui, je vous l'offre. Avec mes deniers personnels et un peu aidé par RMC. Évidemment. Quel est le débat caché du jour? C'est 11h30. Marc Madio.
Alors, on est au salon de l'auto. Je me suis dit, tiens.
Tiens,
pour une fois, on va peut-être parler de Formule 1, de Renault et d'Alpine et du.
Non, il n'aime pas ça, ça l'intéresse pas ça.
Non, Briatore doit-il partir?
Ça fait combien de fois que tu m'as proposé?
À chaque fois, c'est Briatore doit-il partir.
Ça fait 4 fois de suite.
J'ai assumé, tu ne prends jamais
le débat. Mais t'es pote avec
Briatore ou quoi? Pourquoi tu veux le virer? Pourquoi tu veux
parce
qu'il
a foutu la merde chez Renault, il a foutu la merde partout où il est passé, il a envoyé des voitures volontairement dans des murs, donc il ne devrait plus être là.
Ok, il veut sa place, il veut la place de Briatore. Allez, c'est possible. Fred Veil, c'est quoi le débat caché?
Je sais pas, ce matin, je regardais un peu les infos, j'ai vu que la Fédération française de basket avait 765 909 licenciés, donc le deuxième sport le plus populaire en France, et pourtant aucune visibilité médiatique.
Okay.
Je me dis que ça, on ne pourrait pas parler de ça.
Arrête un peu, arrêtez de vous plaindre.
Arrêtez de vous plaindre un peu
les basketteurs.
Mais oui, on n'existe pas médiatiquement.
Mais toute la nuit, il y a des matchs de basket, Fred, arrête un peu
oui,
là.
Oui, effectivement, mais des sujets hyper passionnés. Malheureusement, le grand public ne reconnaît pas le basket à sa juste valeur.
Ok, tu veux pas encore nous parler de basket donc?
De basket.
Ok.
Pour changer.
Très bien, pourquoi pas.
Donc, lui, il a le droit avec Briatore et moi, j'ai pas le droit d'avoir.
C'est juste qu'à mon avis, la R5, toi, c'est sous le pif. Christophe Cessieux.
Moi j'aimerais bien qu'on parle, mais alors c'est un vœu pieux parce que je sais que ça t'intéresse pas, de voile, de la Coupe de l'Amérique. C'est le plus ancien trophée de l'histoire du sport.
Ah ouais,
et
mal,
ça se joue en ce moment. En ce moment, va avoir lieu la dernière régate.
Ouais, c'est plié quand même.
Et les Néo-Zélandais vont gagner. C'est un sport qui passionne les Anglo-Saxons. En France, on n'a rien à faire. Nous, pour nous, la voile, c'est la course en
solitaire.
C'est
le Vendée Globe.
Voilà,
c'est le Vendée Globe.
Et on n'a rien à faire du reste.
Le monde extérieur,
c'est le Vendée Globe. Et j'aimerais bien qu'on s'intéresse à ce truc-là et essayer de comprendre pourquoi on s'intéresse pas à ça. Voilà. Ça nous changerait un peu du Mbappé, tu vois ce que je veux dire.
Très bien. Vous avez donné vos idées. Peut-être que quelqu'un va gagner cette magnifique R5. Ce sera à partir de
11h30. Je sens que je suis pas loin de la R5.
Restez avec nous. Peut-être pour Marc Madio. C'est possible. Restez avec nous, les copains, évidemment. Une information, un résultat à vous donner. Sachez que les frères Lebrun se sont qualifiés pour les demi-finales des championnats d'Europe qui se disputent actuellement en Autriche. Ils sont déjà assurés d'une médaille. Ils ont battu les Belges 4-1. Et donc, qu'est-ce qu'on leur met aux Belges à chaque fois, quand même, le France Belgique? C'est fou, hein?
Ça y est.
J'espère qu'il n'y a pas trop de Belges dans la salle ici au Mondial de l'Auto. En tout cas, voilà. Médaille assurée et donc victoire en quart de finale et donc qualification pour les demi des frères Lebrun. Sachez qu'ils disputeront leur simple, hein. Leur huitième de finale, ce sera en début d'après-midi. Toutes les dernières informations sur le site rmcsport.fr. Tristan Bernard a dit un jour, l'argent n'a pas d'odeur. Mais à partir d'un million, il commence à se faire sentir.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde. RMC, la flamme rouge.
Valentin Paré-Peintre qui vient chercher une victoire sur le Tour d'Italie. Il n'en croit pas ses yeux. Valentin Paré-Peintre remporte la première étape de cette deuxième semaine du Tour d'Italie.
Pas se laisser voler, mon petit. Jamais.
Zinglewek, oh là, qui a fait la différence. Allez. Et il va aller chercher cette première victoire d'étape.
Ah, oui, oui.
Le jeune Français, voilà, troisième des championnats de France et qui s'impose ici pour la première étape de cette Arctic Race of Norway.
Ce pillage est inadmissible. C'est la coutume ici. Ça s'appelle du vol.
Ça passe comme vient de faire Romain Bardet, ça peut le faire.
Ça va le faire
pour Lenny Martinez qui va aller chercher le maillot rouge. Aujourd'hui, à 20 ans, le môme, deuxième de l'étape de Rabalambray et nouveau maillot rouge.
Les Anglais luttèrent magnifiquement contre les envahisseurs, mais en vain.
Dans moins de 5 ans, 60% des équipes françaises auront disparu. La semaine dernière, dans Ouest France, Emmanuel Hubert, manager général de l'équipe Arkéa B&B Hotel, a tiré la sonnette d'alarme. Le modèle du cyclisme français n'est plus viable, selon lui, étranglé par les coûts, les charges et incapable d'attirer des grands noms et surtout contraint de laisser partir leurs pépites. La musique qui fout les jetons. Et cette question, dans les grandes gueules du sport, les équipes françaises sont-elles condamnées? Oui ou non? Marc Madiot.
Non.
Christophe Cessieux.
Ouais, si on ne bouge pas les choses, elles sont condamnées.
Fred Weiss.
En l'état, oui.
Jérôme Pinault.
Oui.
Avant de débattre, on va retrouver la voix du vélo sur RMC. Arnaud Souk. Salut Arnaud.
Salut les amis.
Mais oui, je le disais, cet été, nos équipes françaises se sont encore fait piller les talents. Hein.
Oui, à commencer par le jeune Lenny Martinez. Il est la fuite la plus médiatique, la plus remarquée de l'année dans le cyclisme français, formé au sein de la Groupama FDJ. Le jeune coureur de 21 ans, aux 6 victoires professionnelles, a décidé très tôt qu'il ne renouvellerait pas son contrat avec l'équipe française. Attiré par les quelques millions d'euros que Bahrain Victorious est en mesure de lui offrir sur les 3 prochaines saisons. Une fuite qui a fait moins de bruit, celle du vainqueur d'étape sur le Giro cette année, Valentin Paré-Peintre, rejeton de la formation Décathlon à G2R, la mondiale. Le Haut-Savoyard va lui aussi renforcer une équipe étrangère, pas forcément la plus argentée, mais l'une des plus prestigieuse en l'occurrence, la Soudal Quickstep, où ses talents de grimpeur devraient faire le bonheur entre autres du leader belge Remco Evenepoel s'il reste. Autre équipe, autre départ vers une formation étrangère, celui d'Axel Zingle. Il quitte Cofidis pour Visma Lissebike, où il pourra à coup sûr mettre à profit ses talents dans les courses d'un jour. Il retrouvera notamment Christophe Laporte qui avait fait le même chemin il y a 2 ans. Ajoutez à cela les départs de coureurs étrangers de talent, celui de l'Australien Ben O'Connor, du Néo-Zélandais Laurent Spiti, ou encore l'incapacité pour une équipe française à recruter Julien Alaphilippe, passé de Soudal Quickstep à Tudor Cycling, et vous obtenez un bien morne mercato pour les formations tricolores, à peine compensé par l'arrivée chez Groupama FDJ de Guillaume Martin et celle de Dylan Teuns et Alex Aramburu chez Cofidis.
Merci beaucoup Arnaud Souk pour ces précisions. C'est vrai que ça va mal en ce moment pour nos équipes françaises. Sont-elles condamnées? C'est le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Si vous voulez participer à notre débat, j'ai un nom. On va le laisser tranquille pour l'instant, Marc Madiot. On va écouter plutôt le camp du oui. Christophe Cessieux, pourquoi
alors,
oui?
Alors, c'est pas un oui optimiste et heureux. Hein, je veux dire, je suis inquiet, très inquiet. Marc l'est, même s'il va essayer de nous remonter le moral. Mais moi, j'ai bien peur qu'à l'image de nos clubs français de foot, il y a quelques années, nos équipes cyclistes à terme soient contraintes de quitter elles aussi l'élite du cyclisme mondial et donc le World Tour pour évoluer dans des divisions inférieures avec des coureurs moins clinquants. Arnaud l'a dit, il y a une fuite des talents qui est hallucinante. Tous les jeunes coureurs de talent aujourd'hui évoluent la plupart dans des équipes étrangères. Marc a réussi à garder Grégoire par exemple. C'est l'un des seuls jeunes talents français sur lesquels on mise qui est encore là. Il y a aussi des jeunes qui ont 17-18 ans qui sont au sein d'autres équipes françaises mais qui risquent de se faire piller dans quelques temps parce que c'est la même raison que pour le foot, c'est les charges patronales qui sont énormes pour les équipes françaises, des équipes françaises qui sont obligées de salarier leurs coureurs et de leur offrir une protection sociale et ça a un coût de 40% supplémentaire par rapport aux équipes étrangères qui de plus en plus s'adossent à des états ou avec des des sponsors majeurs. Je veux dire, l'arrivée de Red Bull dans le vélo inquiète. Vous avez le Bahreïn, vous avez l'UAE. Ce sont des États qui ont des moyens. C'est comme le PSG avec le Qatar. C'est exactement la même chose. Ils ont des moyens énormes et ils n'ont pas du tout les mêmes charges patronales. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez lutter contre ces équipes-là? Et évidemment, les agents s'engouffrent dans la brèche et lorsqu'ils vont proposer des coureurs à des directeurs sportifs ou des managers, eh bien les managers ne peuvent pas s'aligner. Marc va nous en parler, mais le cas Lenny Martinez, c'est terrible. Lenny Martinez est sans doute l'avenir du vélo français. Marc a essayé de le garder, c'est lui qui l'a fait sortir, qui l'a fait passer professionnel. Mais bon, Bahreïn est arrivé avec un énorme carnet de chèques et tu peux pas lutter. Ils ont proposé combien de plus que toi, Marc, pour avoir Lenny?
Il faut poser la question à Lenny.
Ouais, mais enfin, en gros,
oui, mais tu connais la réponse.
Bah, oui, j'ai la réponse, mais je vais pas vous la donner. Mais oui, je la connais.
Oui, mais c'est quoi?
Je pouvais pas jouer.
Voilà. C'est 3 fois plus? C'est 4 fois plus?
C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus.
C'est 10 fois plus?
Pas 10 fois, mais c'est un on n'avait pas les moyens. Et deux, même si on avait eu les moyens, c'était un déséquilibre énorme à l'intérieur de l'équipe. Donc c'était irréalisable.
Ok, tu tuais ton équipe juste pour un coureur.
Voilà. Très simplement, non.
Mais c'est symptomatique de ce qui se passe actuellement dans le vélo, quand même, du désarroi de nos équipes françaises.
Il y a un désarroi, il y a des appréhensions, il y a des inquiétudes, il y a des difficultés, mais il y a quand même un mais. Quand on refait l'histoire de la vie des équipes cyclistes en France et dans le monde, on passe par des cycles. Il y a eu une époque où les équipes françaises étaient en bonne situation, et d'autres où on est plus en difficulté. On sort d'une période assez faste en termes de nombre d'équipes, en termes de structure et de qualité de course et d'organisation en France. On voit bien qu'on arrive à un plafond, mais qui est lié à l'aspect purement économique de la vie en France. On voit bien que les pouvoirs publics vont mettre moins d'argent dans le sport en général et donc dans le vélo également. Donc on sait qu'on va rencontrer des difficultés, mais c'est cyclique. Pourquoi je garde une bonne dose d'optimisme? Tout simplement parce que le sport cycliste est ancré dans l'ADN du sport en France et dans la vie des Français. J'imagine qu'il est inenvisageable qu'il n'y ait pas d'équipe française de niveau acceptable, par exemple au départ du Tour de France. Il faut quand même préserver ce qui est l'essentiel. La base du cyclisme mondial, c'est quand même la France. Le pays où il y a le plus de courses cyclistes, c'est la France. Le pays où il y a le plus de coureurs cyclistes professionnels, c'est la France. Le pays
justement,
où il y a le plus d'équipes,
problème,
c'est la France. C'est un petit problème. Ce qui fait la force du cyclisme français, c'est la cohésion et la cohérence entre les différentes familles du cyclisme français. Les organisateurs, les équipes, les coureurs, la fédération. Aujourd'hui, on a un cyclisme professionnel que le monde entier peut nous envier dans sa structure et dans son organisation. En France, tous ceux qui sont professionnels sont salariés, ont un contrat de travail. Ça n'est pas le cas dans tous les pays. Il y a même des pays où il n'y a plus rien du tout. Regardez l'Italie, il n'y a plus d'équipe pour le Tour. L'Italie est quand même un grand pays de cyclisme. Aujourd'hui, il est désertique au niveau des équipes. Donc,
on ne peut pas avoir le même problème.
On ne peut pas avoir le même problème tout simplement parce qu'il y a un ancrage plus fort en France et parce qu'on a le Tour de France qui est la clé de voûte. Et il y a quand même un ancrage très fort dans nos villes et nos villages. Il y a encore des courses cyclistes aujourd'hui. Il y a encore.
Ouais, mais regarde, les équipes amateurs sont en train de toutes péricliter.
Oui, mais parce qu'on a monté artificiellement le nombre d'équipes amateurs en France pour pouvoir toucher des aides des pouvoirs publics. Il y avait aussi trop d'équipes. De DN1, comme on appelle DN1, DN2, DN3.
C'est
le cas chez les pros aussi, mais on a quand même de quoi faire travailler tous nos coureurs en France et toutes nos équipes avec le calendrier français qui est le premier calendrier mondial. Il faut quand même s'en souvenir.
On vous propose ce débat parce que nous avons avec nous le patron de la Groupama FDJ et puis un ancien patron d'écurie aussi. Tu as dirigé Vital Concept B&B Hotel. Éphémère peut-être, mais bon, tu étais bien au courant de ces sujets-là. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec Marc?
Non, je suis pas d'accord avec Marc sur le sujet à moyen terme. Je pense que effectivement la déclaration de Manu Hubert elle est vraie. 60%, ça veut dire qu'il en restera, mais dans le cyclisme français, les gros mangent les petits. Dans le cyclisme mondial, c'est pareil. Si les lois ne changent pas, il y aura moins d'équipes à l'avenir. Je suis pas d'accord avec Marc sur le fait que il y a encore des courses, mais il y en a de moins en moins. Les organisateurs souffrent et vont pas pouvoir continuer longtemps non plus. La base, le réservoir des jeunes eh bien, avec toutes les équipes qui disparaissent, à partir du moment où il n'y a pas le talent pour aller dans une équipe réserve, on sent que c'est bloqué. Donc il y aura moins en moins de gamins qui vont rêver sur le bord de la route à aller voir les courses dans le village, parce que les courses de village, la DN1 du coin qui fait rêver le gamin qui est junior, ben, elle n'existe plus. En Bretagne, ça fait 3 de suite, 3 grosses équipes de DN1. Et Marc, je ne suis pas d'accord sur le fait que ça a été monté pour toucher les subventions, parce que ces équipes-là, qu'elles soient Sojasun, que ce soit Marie Morin, Côte d'Armor et encore récemment Morbihan Adris, c'est des équipes historiques et elles ont disparu quand même. Et chez les pros, c'est en train de se faire pareil. Moi, j'ai eu un passage éphémère, il s'est passé ce qui s'est passé, on m'a promis des choses qu'on m'a pas donné, mais au final ça a pas fait pleurer grand monde qu'on disparaisse nous, parce qu'il y avait trop d'équipes, et il y a trop d'équipes en France encore, oui sur le marché français, oui sur le calendrier français, mais est-ce qu'on parle de faire des courses en France ou est-ce qu'on parle de briller à très haut niveau? Ton équipe, Marc, aujourd'hui, elle souffre d'une chose, c'est de la concurrence déloyale fiscalement avec les autres grandes équipes. Si tu payais pas toutes ces charges et si tu n'avais pas toutes ces taxes à payer en plus de tes adversaires principaux, parce qu'on fait un championnat dans lequel les règles sont pas les mêmes.
Sauf donc, que le sujet du moment, ce qui fait qu'on entre dans une difficulté particulière, c'est qu'avant on était déjà dans la même situation fiscale, on était déjà dans la même situation d'organisation, oui, avec les autres.
Avant, en face, t'avais pas les États. Hein.
Sauf que la différence entre ce que sont nos budgets à nous et ce que sont le budget des équipes étatiques ou des mastodontes sponsors, c'est là que la différence s'est faite. Ah bah c'est-à-dire oui. Qu'eux sont arrivés avec beaucoup plus d'argent. Avant, ils avaient à peu près comme nous, voire un peu plus, mais on arrivait à rester dans une concurrence. Maintenant, il y a quand même un élément qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, il y a des grands, il y a des mastodontes qui arrivent.
Vous êtes adossé à des sponsors. Je veux dire, la Française des Jeux, c'est pas rien, ça.
Bah oui, ils sont avec moi depuis 30 ans.
Groupama, c'est solide. Total Energy, pour ne citer qu'un autre sponsor, c'est énorme. Décathlon, c'est énorme. On n'arrive pas à faire, à les faire cracher un peu plus au bassinet, tous ces gros sponsors.
Mais parce qu'aujourd'hui, nous, on est, nos sponsors en France sont dans une équation rationnelle. Ils investissent pour un retour sur investissement en termes d'image, en termes de notoriété, en termes de sympathie, etc. Et il y a un équilibre qui existe fort naturellement entre ce que les partenaires, que sont les Groupama, les Cofidis et autres, mettent dans le Nourin pour faire fonctionner une équipe. Il y a un retour sur investissement qui est évalué et quantifié. Si ce retour sur investissement est intéressant, ils peuvent se permettre de continuer. Si ce retour sur investissement n'est pas assuré,
pour qu'il soit,
on se retrouve
pour
en difficulté.
Il faut que on parle de vous, donc il faut que des coureurs gagnent des courses.
Mais je garde quand même. Alors j'entends ce que vous dites et je partage en grande partie. Je garde quand même une note d'optimisme parce que la France a cette force, cette capacité, cette puissance à se régénérer et à perdurer dans le temps et à être un socle dur de notre sport. La France est quand même un socle dur du vélo. C'est ce qui lui permettra de passer moment difficile.
Moi, j'ai une question. C'est du vélo ou des courses? C'est-à-dire, quand tu parles du Tour de France, est-ce qu'on a besoin vraiment d'une équipe française au Tour de France? On a besoin de Français qui performent? C'est-à-dire qu'en gros.
On a besoin de Français, mais on a besoin d'équipes françaises aussi.
Quand je regarde le Tour de France, moi, j'aime bien que le 14 juillet, il y ait un Français qui soit devant, etc., etc. Donc, une équipe française réellement.
Il y a quand même besoin d'équipe française.
Oui, mais mis à part mon cœur Cocorico, c'est quoi l'intérêt?
Ton cœur Cocorico est partagé par des millions de Français quand même.
Mais évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que quel est vraiment le problème s'il n'y avait plus d'équipe française? Les gens ne regardaient plus le Tour de France, tu penses? Si, ça ne changerait pas grand chose. Sauf que là, on a des équipes qui performent avec des coureurs français qui peuvent performer de temps en temps, mais pas forcément dans les équipes françaises en fait.
Bah, médiatiquement, clairement, médiatiquement, l'an prochain, si Lenny performe autant, voire plus qu'il était quand il était chez toi, ça fera vibrer les Français pareil, hein,
ben oui,
qu'ils soient chez Bahreïn ou chez.
Elle est où la différence là par rapport à ça, Marc?
Moi, je pense vraiment qu'il y a besoin d'équipe en France. Il y a besoin d'équipe en France et d'équipe française au départ du Tour. Il suffit de regarder un tout petit peu l'histoire. Qu'on soit d'accord ou non avec la politique menée par ASO, ASO a toujours veillé à ce qu'il y ait un minimum d'équipes françaises au départ du Tour de France. Et je suis persuadé, j'en ai pas parlé avec eux, mais je suis persuadé que dans l'avenir proche, ce sera la même chose.
Oui, mais protéger, et j'en finis par là avec Jérôme, ça veut pas dire compétitif.
Ça veut pas protéger, dire compétitif.
Mais non, mais c'est ça la problématique du sujet, quand même, elle est là.
Ça assure quand même un socle dur pour les équipes.
Et alors, est-ce qu'on peut
ce qu'on veut. Si on veut des coureurs salariés avec un statut de salarié et des coureurs en grand nombre qui ont un statut et qui vont faire des courses professionnelles, Là, d'accord. Oui, mais là, si mais on veut des coureurs français, les performants.
La solution est simple, hein, c'est d'avoir d'adapter la
législation.
La législation. Sauf qu'aujourd'hui, on est en France, dans un pays. On est quand même dans un pays qui est en grande difficulté économique. Je vois mal un ministre des Sports ou un premier ministre dire on va exonérer de charges le sport français. Hein, pas arriver. Hein.
Organiser aussi, autoriser les équipes à faire des recettes sur les courses, notamment organiser des choses autour du Tour de France, pouvoir. Non plus payer des choses, mais en gagner.
C'est pas ça qui fera le
gain. C'est des petits. Instaurer aussi des transferts. Pourquoi pas instaurer un salarié cap. C'est à l'UCI de penser à ça.
Oui, parce qu'on en parle.
Les transferts, Marc, t'es le premier en première ligne. Si demain il y a des transferts dans le vélo, tu peux signer ton coureur plus longtemps à cause de cette règle de l'UCI qui dit si on peut pas signer plus longtemps que le partenaire principal. Si ça change, tu peux faire signer Lenny Martinez 6 ans, 8 ans, et quand ils te le veulent au bout de 4 ans, tu les fais cracher au bassinet. Faut pas avoir honte de faire un système qui existe aussi dans le football, mais qui te ramènera des ronds.
Et qui permet encore au club français d'exister en matière de football. Alors, voilà. Tu formes les
jeunes coureurs, on crève,
et ensuite tu te fais piller par les grandes écuries qui elles ne forment pas grand chose mais qui vont se servir chez les uns et les autres sans avoir rien à payer.
Est-ce que tu veux des transferts là? Est-ce que tu dis maintenant
que je suis pas arc-bouté sur l'histoire des transferts. Moi je suis plus favorable à un budget cap avec des règles de fonctionnement.
Est-ce que tu crois qu'ils vont les respecter,
ça existe en basket.
Ah oui, sauf que nous on a une luxury tax, c'est-à-dire que tu peux le dépasser, tu payes un peu plus, mais tu peux le dépasser. Quand c'est un État qui dirige, ils s'en foutent de dépasser le budget en fait.
Solution, est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir des sponsors français, mais d'avoir une structure, un siège social finalement qui soit à l'étranger? Ça, c'est pas possible?
C'est peut-être possible, mais c'est difficile à entendre pour certains sponsors.
Solution pourtant. Oui. La problématique, elle est là. Et il faudrait que demain, on n'ait pas honte de dire moi, mon siège, il est au Luxembourg et en Belgique. Mon siège sportif
Hubert
est en France.
C'est une très bonne idée. Il faudrait que toutes les équipes soient installées au niveau juridique dans le même pays.
Évidemment, mais vous savez qu'au niveau de l'image, en France, ça risque d'être compliqué à faire passer.
Avec l'image, on va finir par crever.
T'auras plus d'équipe.
Merci Jérôme Pinault d'avoir été avec nous. On te retrouve très vite évidemment dans le studio des grandes gueules du sport. Nous allons poursuivre la discussion. Débat extrêmement intéressant. On pourra en reparler, mais GG. Mais dans quelques instants, c'est le débat caché. Et ici, on le sent bien, au mondial de l'automobile, tout le monde est venu pour le débat caché. Tout le monde s'est dit 11h30. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire comme débat caché? Je vous l'ai promis. S'il y en a un qui trouve le débat caché, je lui offre la R5 électrique. Ok?
Je sens que j'ai gagné.
Je prends pas de risque. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport, en direct du Mondial de l'Auto.
Jean-Christophe Drouet.
11h33, toujours avec Fred Weiss, Christophe Cessieux, Marc Madio, les grandes gueules du sport. Nous sommes ensemble jusqu'à midi au Mondial de l'Automobile. En jambes aussi? T'es sûr que t'es en jambes? T'es pas venu à pied quand même, toi?
Non, pas trop. Hein? Non.
On est venu du boulot à pied, nous.
Ouais, mais moi je suis venu en tram, c'est mieux.
Oui, t'as préféré. Oui, voilà, bah, il faut évidemment.
Aussi, en tram, voilà.
Préserver vos grandes carcasses. Hein. Et puis là, je vous aide pas, les copains, non plus. Et on peut le comprendre.
T'es venu avec ta voiture privée, toi? T'as un garage?
Je suis venu avec mon chauffeur.
T'as un parking?
Je viens toujours avec mon chauffeur.
Ouais, ça m'étonne pas, tiens.
Voilà. Et ensuite, je pars à Stockholm.
T'as tes clubs de golf dans le coffre?
Voilà.
Au golf, exactement. Cet après-midi, quoi. Oui, à 13h30, t'es au golf.
Bah, bien sûr,
t'as une belle vie, toi.
Hein, c'est pas mal, hein. Bah, c'est ça, animateur des grandes gueules du sport. Nous sommes toujours au Mondial de l'Automobile. Le pavillon 6, au stand RMC Découverte. Venez nous voir, évidemment. Il reste encore quelques places, même s'il y a déjà pas mal de monde pour suivre cette émission. Sachez que dans 10 minutes, c'est à vous de jouer, les auditeurs. Vous posez le 32-16 et vous venez expliquer la vie à nos GG qui ont raconté n'importe quoi depuis le début de cette émission concernant Kylian Mbappé, Dupont, Marchand, le cyclisme. Enfin, Marc, c'était très bien sur le cyclisme, évidemment. Mais vous venez les provoquer, c'est au 32-16 que ça se passe. Tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Ah, les GG ne savent rien et pourtant, ils vont devoir tout vous dire, réagir sur l'instant à un débat inconnu. C'est le principe de cette émission, c'est le principe de cette séquence. Et je vous l'ai promis, si quelqu'un me trouve le débat caché, je lui offre une R5 électrique. J'ai eu la Coupe de l'América, j'ai eu Flavio Briatore et j'ai eu du basket pour changer, signé Fred Weiss. Le débat caché du jour, c'est ça. Un jour sombre pour l'Angleterre. C'était la une des sports du Daily Mail cette semaine après l'officialisation de Thomas Tuchel comme sélectionneur de l'équipe d'Angleterre. Un jour sombre poursuit le tabloïd anglais puisque le manager revient à un Allemand. Une nation pourtant habituée à s'acoquiner avec les sélectionneurs étrangers. En foot, le Suédois Sven-Göran Eriksson ou encore l'Italien Fabio Capello se sont installés sur le banc de la sélection. 5 ans chacun tout de même. En rugby, l'Australien Eddie Jones a conduit le 15 de la Rose pendant 7 ans. Un phénomène, c'est vrai, rarissime en France dans les sports majeurs. Alors notre débat, aujourd'hui dans les grandes gueules du sport, un sélectionneur étranger en équipe de France, pour ou contre ? Marc Madio.
Pas contre.
Donc pour.
Plutôt pour.
Plutôt pour. Pour ou contre, Fred Weiss.
Absolument pour.
Absolument pour.
Oui.
Ça, c'est l'Américain qui parle.
Ouais, moi
Christophe Cessieux.
Pour.
Comment vous pouvez être pour un truc pareil?
Bah non,
c'est fou,
il
ça.
Faut arrêter de penser franco-français.
Mais pour une sélection, évidemment que si. Mais je vais vous laisser.
Pour, mais ce ne sera pas facile pour lui.
Oui, on est bien d'accord. Fred
Comme ça, on pourra le virer plus facilement.
Pourquoi totalement pour?
Mais totalement pour, parce que quand je vois l'Espagne, qui est par exemple notre bête noire en basket, le coach, c'est un Italien. Et ça fonctionne très bien. Je pense qu'il y a des coachs qui sont intégrés, qui sont dans le championnat de France, qui sont très performants en Euroleague, qui peuvent apporter des choses différentes, une vision différente du basket, qui peuvent avoir ce charisme nécessaire. Alors moi, je suis très content de la nomination de Freddy Fautou. Mais le fait qu'on n'ait même pas pris le temps, la peine de sonder des coachs étrangers, moi, je trouve ça scandaleux.
C'est drôle parce que je parle de sport majeur et toi, tu t'engouffres directement dans le basket. Ok, tu trouves ça scandaleux de ne pas avoir auditionné des entraîneurs étrangers.
Je ne comprends pas. Pour quel est l'intérêt de se dire, je veux la meilleure sélection? J'ai le choix de prendre l'entraîneur, mais je prends forcément un Français. Non, il faut regarder ce qui correspond le plus. Et si on n'avait eu personne? Et si on n'avait pas eu de coach de qualité? On prenait quand même un coach mauvais, c'est ça?
Ah, parce que tu penses qu'en France, une terre quand même de basket, il n'y a pas d'entraîneur de qualité?
Et tu penses qu'il n'y a pas des meilleurs coachs dans toute l'Europe? Est-ce que nos coachs
peut-être qu'il y a des meilleurs coachs, mais une équipe de France doit être représentée par un sélectionneur français.
Mais la preuve que non, l'Espagne ne l'est pas. Par exemple, Scariolo, tu savais qu'il était italien?
Attends, j'ai entendu le haut là.
Non, mais le sélectionneur de l'équipe de France de volley qui nous a amené au titre olympique, il est quoi? Il est quoi?
Bah, il est né où?
Il est né à Béthune ou quoi?
Il est italien.
Voilà. Et ça a marché. Pourquoi on resterait franco-français tout le temps?
Ok, en rugby.
Les Anglais,
en rugby, Warren Gatland. Ça t'allait très bien pour le 15 de France?
Je sais pas, Warren Gatland, mais les Anglais ont pris des voilà, un mec comme Ronan O'Gara, pourquoi pas manager de l'équipe de France?
Mais Ronan O'Gara, il est un peu français, tu le sais bien, il entraîne La Rochelle, tu
parles
des exemples.
Les Français.
Tu vas me dire qu'un Anglais, un très bon Anglais, tu vois vraiment la crème de la crème, qui vient entraîner le 15 de France,
non, pas d'anglais.
On est bien d'accord. Là, si ça va, si c'est le volley, si c'est le basket, ça te dérange pas.
Mais un Néo-Zélandais, je dirais volontiers oui.
C'est une vision différente, c'est une aura différente, c'est des coachs qui sont importants.
Ça te change un peu de tes schémas habituels.
Exactement. Ouais, mais il y a quand même un truc qu'il faut prendre en considération. Si on n'a pas le sélectionneur adéquat pour la sélection nationale, il est logique qu'éventuellement on se tourne vers l'étranger. Il ne faut pas se l'interdire. Mais à partir du moment où on a.
Si on a mieux en
si
magasin,
on a déjà des gens bien chez nous qui peuvent faire le job, il faut d'abord passer par les frontières.
Mais à niveau égal, je suis d'accord.
Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais même à niveau égal, ce n'est pas une histoire de niveau, c'est une histoire de voir les choses de manière différente. Nous, on est dans nos schémas franco-français.
Mais on l'a fait en foot en France avec Kovacs.
Oui, ça a marché.
On l'a fait une fois parce qu'on était en pénurie, on était dans la panade complète. C'est lui qui a lancé
le football français derrière.
Voilà.
Hidalgo est arrivé, mais c'est Kovacs qui a été le détonateur, qui a permis à cette équipe de France de retrouver le chemin de la gagne. On gagnait plus rien depuis des siècles. Et quand il a été
il n'y avait personne sur le marché français de mémoire à cette époque qui était capable de prendre la place.
Mais il a pensé différemment. Il a appliqué les méthodes qu'il a appliquées à l'Ajax d'Amsterdam et ça a mis la France sur le bon chemin, le chemin de la gagne. Et je suis sûr qu'on a des choses à apprendre en rugby. Pourquoi pas prendre un grand entraîneur néo-zélandais? Ils
mais
ont
les
gagné toutes les coupes du monde, on n'en a jamais gagné
et
une.
Les adjoints, c'est arrivé avec le 15 de France.
Oui, mais des adjoints, c'est pas des adjoints. Il faut un chef.
Il faut un
atelier.
Chef. Il faut un chef. Il faut quelqu'un qui t'apporte cette expérience différente, mais au plus haut niveau. Sinon, ça sert à rien.
Alors Bernard Laporte, au moment où il était président de la Fédé de rugby, avait lancé l'idée. Qu'est-ce que vous pensez de prendre un sélectionneur
pour le coup?
En l'occurrence, c'était Gatland. Et il y a eu une bronca. Il y a eu une levée de bouclier évidemment de tous ceux qui ont leurs petites affaires et qui veulent surtout pas voir quelqu'un de l'étranger arriver.
Parce tu que... penses que c'est ça, c'est pour s'occuper de ses petites affaires, bah, surtout parce que
pour essayer de récupérer le poste aussi.
Bah, Fabien Pelouse, qui a critiqué justement l'arrivée possible de Warren Gatland, disait bah voilà le coq, le maillot, la Marseillaise. Enfin,
oui, non, mais ouais, c'est souvent l'entre-soi aussi. Hein.
Faut arrêter c'est souvent l'entre-soi. Le nationalisme ou le patriotisme de bas étage.
Je prends le côté inverse. Zinedine Zidane, qui est libre, qui va dans une autre sélection, qui va entraîner l'Italie,
et moi,
qui va entraîner le Brésil.
Entraîner le Brésil.
Ce
serait génial. Pour la renommée du football français.
Pour la renommée, pour l'expérience aussi.
Non, mais imaginons Zidane avec le Brésil qui se retrouve face à Deschamps avec l'équipe de France.
Ah, génial. Et qui lui met une tôle.
Qui ?
Ben Zidane.
Ah, oui, d'accord, ok. Oui, t'aimes pas l'équipe de France, quoi, en fait. Donc,
ça non. Par contre, on rigole plus. C'est Deschamps qui bat Zidane.
Mais c'est une bonne question. Un jour, je la poserai à Noël Le Graët. À mon avis, il me répondra. Donc, vous êtes tous pour.
Moi, je suis plutôt pour. Moi, par exemple, dans mon équipe, on n'est pas au niveau d'une sélection. Mais moi, j'ai été chercher des directeurs sportifs étrangers dans mon équipe.
Attends, je vais y aller. Championnat du monde, c'est pas Thomas Vauclair. On le remplace par quelqu'un d'autre, par le plug, c'est ça de...
En l'occurrence, c'est le meilleur.
Richard Plug.
C'est le meilleur
Richard
DS.
Plug. On le remplace par Richard
en
Plug.
En l'occurrence, Vauclair, c'est le meilleur DS.
Mais à un moment donné, il va s'arrêter. Et s'il s'arrête, on le remplace par Richard Plug. Là, il n'y a pas une levée de bouclier, il n'y a personne.
Richard Plug, il n'est pas directeur sportif, il est manager d'équipe.
Mais pour...
Ce serait pour remplacer Marc Madiot, éventuellement, Plug. Mais il n'aime pas la bière, Plug. Donc là, ça ne pourrait pas aller dans
ça
une
va
équipe
pas
française.
Non plus, ouais. C'est compliqué. Très compliqué.
Je suis très étonné que tu répondes ça. Toi qui adores les championnats de France, toi qui as le...
Oui, mais...
Toi qui adore le général de Gaulle, je suis très étonné, Marc. Je te le dis,
le général de Gaulle était très ouvert.
C'est la performance surtout. C'est on cherche de la performance.
Cherche de la performance.
J'ai
te raconter une petite histoire. Cette année, j'ai embauché un directeur sportif néo-zélandais qui venait d'une toute petite équipe.
Mais non, mais ça, on est. Mais il n'y a personne qui est contre.
Bah oui, mais tu as l'air de d'être très surpris que je puisse faire ça.
Mais oui, parce que la sélection doit rester la sélection.
Mais c'est comme les naturalisés, donc t'es contre les naturalisés alors.
Et pourquoi je serais contre les naturalisés?
C'est des mecs qui
sont un droit au départ. Si t'as le droit d'être
moi, je pense, par contre, si on n'a pas en magasin la personne adéquate pour remplir la tâche, ça ne me gêne pas qu'on aille vers l'étranger.
Si Carlo Ancelotti a envie de se naturaliser français et qu'il le sélectionne l'équipe de France, j'ai aucun problème. Maintenant, si Carlo Ancelotti arrive sélectionneur de l'équipe de France, ça me gêne.
C'est quoi la différence? C'est juste des papiers.
Parce qu'on a.
C'est juste des papiers, c'est quoi la différence?
On a des entraîneurs français.
Mais il est toujours. Il sera français de papier, juste uniquement pour la sélection, comme un Joël Embiid qui serait venu pour l'équipe de France pour jouer juste pour les papiers. Ça n'a rien à voir.
Comment ça va tes relations avec Joël Embiid d'ailleurs?
Ça va moyen.
On est
pas super potes.
Ok, bon. C'est peut-être moi le seul réactionnaire de la bande finalement. Je pensais que c'était vous, mais finalement c'est moi.
Tu manques d'ouverture d'esprit, c'est ça qui me choque un petit peu.
C'est pas le choix qu'on fait en numéro 1, bien évidemment, mais pourquoi pas. Ça a déjà été fait par le passé, mais pourquoi pas.
Je suis sûr, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent là ici au Mondial de l'Auto. Je les vois acquiescer à chaque fois que je parle, donc à mon avis, je pense qu'ils sont largement d'accord avec moi.
Avec toi ?
Oui, bah évidemment.
Tu vas sortir d'ici avec le coudron et les plumes, tu vas voir.
11h43, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. C'est à vous de jouer les auditeurs, vous composez le 32-16 et vous venez évidemment vous aussi participer à cette émission et régler vos comptes, hein, je l'espère, au GG, ici présente. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport, en direct du Mondial de l'Auto.
Jean-Christophe Drouet.
11h47 de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Fred Weiss, Marc Madiot. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. À partir de midi, les paris RMC toujours en direct du Mondial de l'Automobile avec Lionel Charbonnier, Roland Courbis et Christophe Payet. Nous parlerons notamment du match ce soir entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg. On vous donnera toutes les meilleures cotes. Mais tout de suite, les GG, c'est vous aussi les auditeurs.
RMC,
les grandes gueules du sport. Et vous?
Et tout le monde va en prendre pour son grade. Sachez-le. On débute avec David. Bonjour David.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous. Merci de m'accueillir.
Tu veux t'occuper de qui ce matin?
De Fred.
Fred Weiss, sur quel débat?
Ça ne m'étonne pas.
Sur le premier débat, celui sur les sportifs, peuvent-ils encore avoir une vie privée?
Ok, on écoute Fred ce qu'il disait, puis ensuite, il est à toi.
Imagine maintenant, tu ne peux plus bouger une oreille. Il faut faire attention à tout. Il y a des débordements. Je sais que mes collègues vont parler des débordements, le fait de dépenser énormément d'argent, de faire n'importe quoi parfois. Sauf qu'il faut se rappeler de l'âge de ces jeunes. Ils ont 25 ans. 25 ans, qu'est-ce que tu as envie de faire? Faire la fête aussi. Tu es sportif, tu donnes tout ce que tu as. Tu as gâché ta jeunesse parce que finalement, tu n'as pas eu de jeunesse. Ben, tu as envie de t'amuser un petit peu à un moment.
David, Fred t'écoute.
Alors, je vais lui répondre en trois points. Le premier, quand il parle de la jeunesse, hein, qu'est-ce qu'on fait à 25 ans? Ben, je dirais qu'à 25 ans, on peut être ingénieur, on peut être enseignant, on peut être interne en médecine. Et que beaucoup de jeunes, n'ont pas de vie, parce que pour en arriver à ce point-là, que ce soit au niveau des études ou au niveau du sport, bah, ça demande beaucoup de sacrifices. Bon, je parlerai pas des jeunes qui galèrent, hein, eux pour finir leur fin de mois, hein, ça c'est un autre problème. Donc ça c'est un premier point, puis je rappellerai qu'Mbappé avait dit quand même, moi, tu me parles pas d'âge. Donc au niveau jeunesse, l'argument il est pas forcément recevable, je dirais. Mon deuxième point, ça serait dire vie privée ou vie d'excès, parce que là on parle quand même d'une soirée bien particulière. On pourrait dire qu'il y a quand même des femmes qui sont là tarifées. Donc est-ce que
ça, on sait
est-ce
pas,
que
ça,
ce sont des soirées qui apparaissent sans normales
doute un peu.
Hein, non, on sait pas, pardon, on sait pas. C'est pas parce qu'il y a des filles conviées dans une boîte de nuit que c'est tarifé, pardon.
Elles ont un sens,
les copains. Pardon, je peux pas laisser dire ça. Mais vas-y, continue, David.
Mais elles ont été choisies quand même, hein. C'est une soirée faite sur mesure. Hein. Donc il a payé pour une prestation, on lui a mis la prestation, voilà. Donc pourquoi les filles étaient là la question se pose quand même, hein, je trouve. Et dernier petit point, je vais rejoindre Marc quand il parle de droit et de devoir. Fred, tu as dit, il ne demande rien. Oui, il ne demande rien, mais il a tout, par contre. Et... pour finir, hein, je vais faire une citation de pop culture, hein, qui dit « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Et je trouve que Kylian Mbappé se perd un petit peu, justement, dans ce point-là. Donc on peut avoir une vie privée, oui, mais une vie privée, on va dire, normale.
Ok, Fred, tu peux répondre à David.
Ben, je vais répondre sur les trois points. Le premier point, tu parles des jeunes qui peuvent être ingénieurs, etc. Alors j'ai la chance d'avoir ma sœur qui est ingénieure en génie physique et qui en même temps est internationale. Elle a fait des soirées complètement folles parce que de temps en temps, t'as besoin de décompresser. Et quand tu pars très tôt de chez toi, ben, la décompression elle arrive toujours vers 25-26 ans. Et c'est pour ça que je disais que c'était un moment charnière de sa carrière, parce que c'est maintenant qu'il doit décider s'il pense qu'il a suffisamment fait ou s'il se remet au travail et s'il devient le joueur qu'il doit redevenir. Ensuite, sur la vie privée, je suis désolé, la vie privée, t'as pas à juger. Effectivement, tu parles de prestations tarifées. Moi, je n'en ai pas du tout la preuve et je trouve ça un peu dérangeant d'en parler sans le savoir déjà. Et ensuite, chacun fait ce qu'il veut de ses soirées, parce que je pense qu'il y a plein de notables dans les régions, dans les villes, etc., qui font des soirées de ce type et personne n'a rien à dire. Qui ont eux aussi des grands
c'est la différence entre un lambda et une star.
Exactement.
C'est ce qu'on disait
matin. Exactement. Sauf que ces gens-là sont des notables de leur ville aussi. Et qui font n'importe quoi de la même façon. Et je suis désolé, encore une fois, ce n'est pas un youtubeur, c'est pas quelqu'un qui a tout fait pour devenir une star. C'est devenu une star parce que c'était un génie du foot. Et à partir du moment où c'est un génie du foot, ça lui a permis de devenir une star. Mais lui, il l'a pas demandé. C'est des responsabilités qu'on lui a données parce qu'il était bon au foot, pas parce que lui voulait devenir une star.
Enfin, les responsabilités, mais voilà, ça vient voulu aussi.
Ça fait partie du jeu, malheureusement.
Malheureusement, il a l'air quand même d'apprécier sa vie de star. Prends un jet privé pour aller en Suède, réserver une boîte avec que des jeunes filles.
J'ai côtoyé Tony Parker, je t'assure que sa vie, je ne la veux pas pour rien au monde.
Je suis d'accord avec toi.
Donc, à un moment, c'est beaucoup de sacrifices aussi.
Ok, merci David d'avoir composé le 32-16 et d'être venu t'expliquer avec Fred Weiss. Marie nous appelle également. Bonjour Marie.
Oui, bonjour.
Bon, on s'attaque à qui
vous
ce matin?
Vous m'avez mis en forme de bon matin.
Ah, bah, tant mieux, on est là pour ça.
Oui. Je voudrais parler avec Christophe parce qu'en fait, ça me fatigue en fait qu'on compare Dupont et Mbappé.
Dupont, c'est un bon cap. C'était dans le débat, pardon Marie, juste pour resituer, c'était dans le débat de 10h. Dupont doit-il redevenir capitaine des Bleus? Et voici ce que disait Christophe.
Moi, je trouve que ce serait une très mauvaise idée et un mauvais message adressé aux autres joueurs du 15 de France. Et puis, il y a le précédent, Mbappé. Hein, je disais également à cette table, à ce micro, il y a quelques mois, que je trouvais que ce serait une très mauvaise idée de désigner Kylian Mbappé comme capitaine de l'équipe de France de football. On a vu le résultat.
Et ça, la comparaison, Marie, a bondi quand elle a écouté Christophe Cessieux. Marie.
Ça passe pas parce qu'en fait, on compare deux personnes qui sont totalement différentes, on compare deux sports qui sont complètement différents. Tout est différent.
Marie, même l'équipe de France. Marie, même brassard et équipe de France. Hein.
Tout à fait. Mais même sans ça, je veux dire, même le ballon, il est différent. Donc on peut pas comparer. D'accord. Et ce que je voulais dire, c'est que je sache, Mbappé, il n'est pas allé en Suède et après il est revenu en équipe de France. Il est allé jouer à Sept, où il a fait quelque chose de formidable, mais en plus il revient avec l'équipe de Toulouse, où il rentre en milieu de jeu et qui nous met trois essais. Il avait été mauvais, j'aurais compris qu'on laisse le brassard. Mais moi ça m'interpelle, en fait. Marie... C'est qu'il n'y a que les journalistes, attendez 30 secondes, il n'y a que les journalistes pour mettre le bis-bis entre Aldrit et Dupont. Eux, ils savent. Eux, ils savent. Et ils sont forts ensemble. C'est ça que je... L'affaire Mbappé avec Griezmann, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est deux... je veux dire, moi j'aime le foot, hein, je le suis de près, voire de très près. Mais là, faire la comparaison entre Mbappé, Griezmann et Aldrit Dupont, ce n'est pas possible. S'il était mauvais, j'aurais compris qu'on laisse...
Mais c'est pas une question d'être mauvais, Marie, c'est pas du tout ça. C'est la surexposition d'une méga star. Et aujourd'hui, Antoine est une méga star du sport français. Et quand tu es une méga star, et qu'en plus, on te donne les charges de capitaine, c'est-à-dire d'aller dans les conférences de presse, d'avant-match, d'après-match, et c'est des choses en plus. Moi, je préfère qu'il soit le capitaine sur le terrain, qu'il décide des choses, mais qu'il n'ait pas le brassard et qu'il n'ait pas à s'expliquer. Parce que je connais les journalistes, j'en fais partie. Quand il va venir en conférence de presse, les questions ne vont pas tourner autour de l'équipe de France, mais autour de son propre sujet à lui. C'est-à-dire que.
C'est pas lui rendre service non
c'est
plus.
Pas lui, mais je trouve que c'est pas lui rendre service okay. à lui. Voilà, c'est tout.
Mais tu retires ta comparaison pour Marie entre Mbappé et Dupont.
Alors, mais c'est-à-dire, Dupont peut le comparer à personne, j'ai bien compris. Dupont, comparé à Pogacar, Cyril Guimard a pris une avalanche sur la tête la semaine
il
dernière.
Il est unique, c'est pour ça.
Et voilà, mais non, mais Dupont, c'est l'icône absolue aujourd'hui. C'est celui, tu as le droit de le comparer à personne.
Okay.
Il est incomparable.
Marie, convaincu par Christophe ou non, vous allez revenir dans cette émission?
Pas du tout. 30 secondes, je peux faire... Attendez, je peux faire une dédicace. Je jouais au basket à Toulouse, au TAC, et je voudrais dédicacer ce petit moment à...
Ça m'étonne, tiens.
Oui, qui vit à Marseille en plus. Je veux vous dire, je suis sur les hauteurs de Cassis, c'est la balle.
La
juste
belle
à envoyer un petit message à Serge Costine, qui m'a appris le basket à Gironis, au TAC, l'ancien AZF, et je lui remercie de m'avoir donné tellement de bonnes choses. Voilà.
Le plus beau sport, Marie. Merci de parler.
Oui. Après, un tas d'autres quand même. Merci beaucoup, Marie, d'avoir été avec nous au 32-16. Dommage, il y avait Jérôme qui appelait pour Marc Madio, mais on n'a plus le temps. On embrasse Jérôme et à bientôt sur RMC. N'hésite pas à rappeler.
Une prochaine
et
fois.
Et si tu veux te faire Marc Madio la prochaine fois. Merci beaucoup, Marc. Merci, Fred. Merci, Christophe. Vous allez faire un petit tour là au Mondial de l'Auto?
Bah, évidemment.
Ok, tu vas essayer la 4L?
Non, mais je suis déjà venu avec mon fils dans la semaine. Moi.
Bah, tu vas pas réessayer?
Non, mais là, il y a trop de monde.
Ah oui, ça me dit, c'est pas possible. Il faudrait ouvrir privatisé pour notre ami.
Moi, je vais pas au golf cet après-midi,
t'as vu, il aime pas les stars, mais il aimerait bien qu'on privatise de salon pour lui. Bon. C'est magnifique.
Allez, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 9h et dans quelques instants. Restez bien avec nous. Les Paris RMC, notamment autour de la rencontre Paris Saint-Germain-Strasbourg, ce soir au Parc des Princes. À tout de suite.
Jusqu'à 13h,
les Paris RMC.